Et comme vous le voyez affiché, je vous propose la lecture du chapitre 12 de l'Apocalypse. Je lis dans la version du Semeur, mais vous pouvez avoir une autre version sous les yeux. Donc voilà, je vous informe que je lis dans le Semeur. Sauf erreur de ma part d'ailleurs, excusez-moi. En tout cas, je lis. Un grand signe apparut dans le ciel. Une femme vêtue de soleil qui avait la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur la tête. Elle était enceinte et elle criait dans les douleurs et les tourments de l'accouchement. Un autre signe apparut dans le ciel, un grand dragon rouge feu qui avait 7 têtes et 10 cornes et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel. Il les jeta sur la terre. Le dragon se posta devant la femme qui allait accoucher pour dévorer son enfant dès qu'elle accoucherait. Elle mit au monde un fils, un mâle, qui va faire paître toutes les nations avec un sceptre de fer. Son enfant fut enlevé auprès de Dieu et de son trône. Quant à la femme, elle s'enfuit au désert où Dieu lui avait préparé un lieu pour qu'elle y soit nourrie pendant 1260 jours. Il y eut alors une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon. Le dragon combattit, lui et ses anges, mais il ne fut pas le plus fort. Et il ne se trouva plus de place pour eux dans le ciel. Il fut jeté à bas, le grand dragon, le serpent d'autrefois, le serpent ancien, dans d'autres traductions, celui qui est appelé le diable et le Satan, celui qui égare toute la terre habitée. Il fut jeté sur la terre, et ses anges y furent jetés avec lui. Alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant sont arrivés le salut, la puissance, le règne de notre Dieu et le pouvoir de son Christ. Car il a été jeté à bas l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Mais eux, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie, même face à la mort. Aussi, soyez en fête, cieux, et vous qui y avez votre demeure. Mais quel malheur pour vous, terre et mer, car le diable est descendu vers vous en grande fureur, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été jeté sur la terre, il poursuivit la femme qui avait mis au monde l'enfant mâle. Alors les deux ailes du grand aigle furent données à la femme pour qu'elle s'envole au désert vers son lieu où elle devait être nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin du serpent. De sa bouche, le dragon vomit de l'eau comme un fleuve derrière la femme pour que le fleuve l'emporte. Mais la terre secourut la femme, elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve pour que le dragon avait vomi de sa bouche. En colère contre la femme, le dragon s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui portent le témoignage de Jésus. Et il se posta sur le sable de la mer. Récit énigmatique, beaucoup d'images, c'est le style de l'Apocalypse. Si vous n'avez jamais lu la Bible, toute la Bible n'est pas comme ça. C'est vraiment une vision particulière, sachez-le. Donc, ne vous découragez pas. Nous sommes ici en plein milieu du conflit qui occupe la plus grande partie du livre de l'Apocalypse, depuis le chapitre 6 et jusqu'au chapitre 20, c'est-à-dire quasiment les deux tiers du livre. Et on y sent que ce n'est pas pour rien que l'Apocalypse a la réputation d'être un livre effrayant. On touche ici du doigt des catastrophes en tout genre. Il est question d'un être monstrueux et menaçant. dont peut-être l'analogue contemporain serait certaines figures monstrueuses du cinéma, si nous arrivons à supposer que nous arrivions à les voir tout à coup comme des êtres qui ne seraient pas des imaginations, mais à s'imaginer que ce soit vrai. Imaginez-vous au pied de cet être-là. On en a tellement l'habitude, qu'on en voit tellement des choses comme ça, des blockbusters qui nous en proposent, que ça ne nous fait peut-être pas grand-chose, mais imaginez que ce soit ça, que ce soit vrai. Et oui, le mot apocalypse, on peut dire, ne signifie pas en grec catastrophe totale, mais révélation, il faut bien le dire. Mais quand on voit le contenu du livre, on se dit quand même que sa réputation de parler de catastrophe, d'apocalypse, n'est pas exagérée. Pourquoi tant de choses effrayantes? Alors, c'est certainement pas pour le plaisir de faire peur que notre Seigneur Jésus a donné cette révélation à l'apôtre Jean. Et donc, qu'est-ce que nous pouvons entendre ici, en tout cas pour le peuple chrétien, notamment, mais pas que? Ce récit, vous l'avez entendu, fait intervenir deux personnages principaux. La femme et le dragon. Alors, le grand dragon, couleur de feu qu'on voit surgir ici, il a tout pour faire peur. C'est un dragon, alors peut-être c'est plus dans notre imaginaire, mais Godzilla donne bien cette image que c'est pas si loin de notre imaginaire. Je me demande même s'il n'a pas été imaginé à partir du livre de l'Apocalypse. C'est un dragon, il est grand, il est rouge feu, il a 7 têtes et 10 cornes. De sa queue, il peut faire tomber les étoiles du ciel. De sa bouche, il peut faire surgir un fleuve pour noyer tout ce qui lui échappe. Et vous l'avez peut-être ressenti, si je puis dire. Il surgit dans le récit à un moment de la vie humaine, au moment de la vie humaine qui est le moment le plus vulnérable, qui doit être le moment le plus préservé. Plus que tout, c'est le moment où l'être humain paraît dans sa plus grande fragilité, dans la plus grande vulnérabilité, le moment de la naissance d'un enfant. Bonne fête, maman, c'est aujourd'hui. Et c'est là, et c'est au moment où la femme devient mère, précisément, que le dragon se tient là, à l'affût, devant elle. C'est cet enfant que le dragon veut dévorer dès qu'il verra le jour. Imaginez-vous à la maternité avec un fauve qui rôde dans les couloirs. Alors ce dragon, il est identifié au verset 9, c'est le diable, lui-même c'est Satan. Premier personnage du récit. Deuxième personnage principal du récit, c'est la femme. Alors la femme, son identité est sans doute plus délicate à identifier, si je peux me permet de ce pléonasme. L'enfant, en tout cas, auquel elle donne naissance, c'est le Christ. Ça, le texte le dit. Bon. Il doit gouverner les nations avec un sceptre de fer. Verset 5, ce qui correspond, alors il faut avoir une familiarité des textes bibliques, mais ce qui correspond à une annonce prophétique de l'Ancien Testament, dans le psaume 2, il est question de quelqu'un qui viendrait, qui dominerait les nations avec un sceptre de fer. Et qui se termine en disant prosternez-vous devant le Fils, qui esquisse déjà la personnalité de celui qui est annoncé. Donc il doit gouverner d'une main de fer, et puis il est soustrait au dragon en étant enlevé jusqu'au trône de Dieu. Et vraisemblablement, là, il s'agit de l'ascension. Alors, puisque l'enfant, c'est le Christ, beaucoup d'interprètes, beaucoup de lecteurs de ce texte ont identifié la femme à la Vierge Marie. C'est bien elle qui a donné naissance au Christ. Donc il serait difficile de dissocier cette femme du chapitre 12 de Marie, la mère de Jésus. Mais si on prend en compte l'ensemble de l'image, on voit qu'il y a d'autres traits dans la description de cette femme qui semble nous amener plus loin que Marie, qui colle moins bien avec Marie. Est-ce qu'on devrait se représenter la Vierge Marie, notamment vêtue de soleil, la lune sous ses pieds, portant sur la tête une couronne de 12 étoiles. Alors je sais bien qu'on a des images de ce genre. Mais 12 étoiles, c'est comme les 12 tribus d'Israël, comme les 12 apôtres. Ça paraît quand même un peu ou beaucoup démesuré par rapport à la modestie de la Marie qu'on rencontre dans les évangiles et dans le reste du Nouveau Testament. Donc déjà, peut-être pas très bien. Et puis après la naissance de l'enfant, la femme reçoit les ailes du grand aigle pour s'envoler au désert. Alors la Vierge Marie au désert, on ne voit pas bien à quoi ça pourrait correspondre. Et enfin, on parle du reste de ses enfants comme ceux qui obéissent au commandement de Dieu et qui gardent le témoignage de Jésus. Pardon, je... Donc est-ce que les chrétiens seraient des enfants de Marie? Tout ça, en tout cas, de mon point de vue de lecteur, me paraît difficile à imaginer. Alors je crois qu'il faut dire que cette femme, cette figure de la femme, inclut bien sûr la Marie, mais qu'elle ne se limite pas à Marie. Qu'elle inclut aussi le peuple d'Israël avec ses 12 tribus, qu'elle évoque aussi l'Église avec ses 12 apôtres, et peut-être bien elle évoque aussi, probablement qu'elle évoque aussi Ève, la mère de notre humanité dans le récit biblique, parce qu'en identifiant le dragon, c'est intéressant parce que Jean donne un mot d'explication, il vient, bon, c'est assez obscur l'ensemble de la vision, mais parfois il donne des mots d'explication. Et là, il identifie le dragon, il explique au verset 9, le dragon c'est le serpent d'autrefois, ou bien le serpent ancien, selon vos traductions, le diable, Satan. Et en le nommant ainsi serpent ancien, Jean évoque très, très certainement le récit de la Genèse, ce récit où le diable, là qui apparaît sous les traits d'un serpent, un serpent insinuant, a réussi à convaincre Ève de prendre le fruit défendu et d'en donner à son mari, ce qui a pour résultat de précipiter tous les descendants, toute l'humanité dans le mal. Et dans la suite du récit de la Genèse, quand Dieu condamne le serpent, il décrète une haine implacable entre la femme et le serpent, tout en annonçant la défaite finale au bout de l'histoire du serpent. La tête du serpent sera écrasée par la descendance de la femme. Et on voit bien réapparaître ici, dans ce chapitre 12 de l'Apocalypse, entre le dragon et la femme, cette lutte à mort entre la femme et le serpent, cette lutte à mort séculaire. Donc ça m'amène à penser, en tout cas pour moi, que la femme de notre chapitre n'est ni exactement ni seulement la Vierge Marie, ni exactement, ni seulement Ève et toutes les femmes qui ont donné naissance à des enfants, ni exactement, ni seulement le peuple d'Israël qui a donné naissance au Messie avec ses 12 tribus, enfin le peuple qui a donné avec ses 12 tribus, et ni exactement, ni seulement l'Église. Mais une espèce de figure emblématique qui les évoque, qui les englobe et qui en même temps qui les dépasse. Voilà pour identifier les personnages. Ce qui nous touche peut-être le plus directement dans cette image aujourd'hui, c'est que le dragon, qui n'a pas réussi à dévorer l'enfant, qui a été vaincu dans le ciel, qui a été précipité sur la terre, le dragon qui n'a pas réussi à anéantir l'Église, le dragon continue à poursuivre de sa haine furieuse les descendants de la femme, c'est-à-dire nous, aujourd'hui. Pas que nous, tous ceux qui nous ont précédés aussi, mais voilà, puisque nous sommes vivants aujourd'hui, eh bien, c'est nous qui sommes concernés. Et en découvrant la vision de ce chapitre 12, on ne peut pas manquer d'être quand même surpris, et peut-être même inquiet, voire très inquiet, de ce combat qui est tellement, tellement inégal entre un dragon et une femme. Et j'ai parlé de combat, mais ce combat est tellement inégal qu'en fait, c'est pas vraiment un combat, c'est une poursuite. Elle fuit et il la poursuit. L'enfant, il est enlevé au ciel. La femme, elle est poursuivie par le dragon. Et si les ailes du grand aigle, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais voilà, si les ailes du grand aigle sont données à la femme, ce n'est pas pour pouvoir se retourner et puis attaquer le dragon, pour s'arrêter, faire demi-tour, face à face, mais c'est pour s'enfuir, et pour s'enfuir au désert. Et la poursuite n'est pas terminée parce que le dragon essaie encore de noyer la femme avec ce fleuve qui sort de sa gueule. Et il faut que la terre s'ouvre. Donc c'est la terre qui intervient pour sauver la femme. La femme, elle n'a pas beaucoup de moyens. Et en même temps, la femme est toujours sauvée. Le dragon ne l'aura pas. Et pourtant, il poursuit et il poursuit toujours, sans répit. Et à la fin du chapitre, le dragon est au bord de la mer. Et qu'est-ce qui va se passer encore? Pour continuer le livre, pour s'en rendre compte. Et on pourrait se dire, mais est-ce que c'est quand même une vision très satisfaisante de l'Église, du peuple chrétien? Menacé, en fuite, sauvé, mais sauvé de justesse. Alors je vous invite à accueillir d'abord l'élément rassurant de cette image qui a un côté très, très inquiétant. Derrière cette image, derrière les images employées dans le récit, nous pouvons entendre, je crois, que l'Église ne sera jamais anéantie. Si ce texte est vrai, je le crois de tout mon cœur, si nous faisons confiance à ces paroles, entendons que l'Église ne sera jamais anéantie. Et Jésus l'a promis, je bâtirai mon Église. Et les portes de l'Hadès, l'Hadès c'est le séjour des morts en grec, hein, les portes de l'Hadès, les portes de la mort ne l'emporteront pas sur elle. C'est dans Matthieu 18. Et quand Jésus parle dans Matthieu 18, son discours est plus transparent, si je puis dire, parce que Jésus évoque une menace qui est effrayante. Je crois qu'elle est effrayante pour chacun d'entre nous, celle de la mort. Et ça, c'est une menace réelle, et on sait bien de quoi il s'agit. Vous savez que je suis des cours à la fac à Lyon, en philo, et c'est rigolo, parce qu'on a, enfin, il y a quelques vieux comme moi, et puis il y a des personnes qui sortent du bac, quoi, grosso modo, c'est de la philo. Là. Donc il y a deux tiers, un tiers un petit peu de participants. Et voilà. Donc du coup, il y a des relations qui se créent, des amitiés qui se font entre des générations différentes, c'est chouette. Et une des personnes avec qui j'ai sympathisé, qui a, je sais pas, 25 ans, j'en sais rien, disait, voilà, l'an dernier était une année difficile, j'ai perdu ma meilleure amie. Voilà, elle avait son âge, quoi. Donc la mort, c'est pour plus tard, mais plus tard, c'est peut-être bientôt. Donc quand Jésus dit ça, je bâtirai mon église et les portes de la mort ne l'emporteront pas sur elle. Il évoque bien quelque chose qui nous effraie et une menace qui est réelle. Eh bien, j'ai envie de dire devant ce texte que nous lisons, plus la menace est réelle, moins c'est de la spéculation, moins ce sont des histoires qu'on se raconte et plus la promesse est précieuse. Et plus la certitude d'échapper au dragon, d'échapper à la mort, au bout du compte, veut être pour nous réconfortante, tellement réconfortante. Et je crois que ça, les premiers lecteurs de l'Apocalypse le comprenaient très bien, parce qu'ils étaient précisément dans des situations comme celle-ci. Ils étaient en prise avec le diable sous ses différentes formes. Il faudrait reprendre, je cite juste quelques extraits des premiers chapitres. Les lettres, ça commence par la vision de Jésus qui dit « je vais te donner une vision ». Et puis ensuite, il y a des lettres à sept églises. Et dans ces lettres, qu'est-ce qu'on lit dans ces sept églises de l'époque? On lit d'abord, dans l'une d'entre elles, la persécution. Une persécution qui est associée à la synagogue de Satan. première mention de Satan. Ensuite, on lit que le diable jette des personnes en prison. Il est question aussi de vraisemblablement ce qui correspond à des expériences mystiques qui sont qualifiées des profondeurs de Satan. Comme si là, on était dans... On promet quelque chose d'extraordinaire, mais c'est les profondeurs de Satan. Et puis, il y a vraisemblablement aussi une emprise occulte dans une des villes. C'est à Pergame où il est question du trône de Satan dans la ville. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Je ne sais pas. Mais ça fait bien 4-5 mentions du mot Satan dans les deux premiers chapitres de ces lettres aux églises, plus une fois le diable. Et c'est la plus forte concentration des mentions sataniques dans toute l'Apocalypse et dans toute la Bible, en fait. Donc le diable, on le sent, il est là. Et c'est justement à cet endroit où on le sent, à cet endroit où il est là, que la promesse, la certitude est donnée et qu'elle a sa place et qu'elle est d'autant plus forte et qu'elle est d'autant plus précieuse. Le dragon ne vaincra pas. Alors sans être aussi menacé peut-être que les chrétiens de ces églises, nous pouvons nous aussi, en fonction des circonstances, dans les épreuves personnelles, devant l'aggravation de la violence. Quelqu'un me disait cette semaine, il regardait les actualités, et puis il y avait encore des malheurs et des malheurs, et ça lui plombait le moral. Je vais dire, mais tu t'attends à quoi aux actualités? Enfin, excusez-moi. Généralement, c'est ça qu'on met aux actualités. Mais voilà, du coup, ça nous plombe le moral. Nous pouvons nous aussi nous sentir devant ce contexte comme devant le souffle du dragon qui nous poursuit. Et il peut être, pour certains d'entre nous, le réflexe peut être de minimiser le danger, de relativiser nos craintes en disant « non, mais c'est pas si grave ». Alors tant mieux si c'est bien ce que vous vivez à l'intérieur, mais j'ai envie de nous faire mesurer que la menace, elle est réelle. Et que, justement, nous avons dans ce chapitre une assurance qui est à la hauteur de cette menace, plus qu'à la hauteur, des menaces les plus effrayantes, les plus graves et les plus réelles. Le dragon ne vaincra pas. Et c'est ce que nous dit d'abord la confrontation entre le dragon et la femme, et c'est ce que nous avons à entendre. En parallèle à cette confrontation inégale sur la terre, en même temps que le dragon poursuit la femme, l'apôtre nous décrit une autre réalité, une autre confrontation. Il y eut une guerre dans le ciel. Dans le ciel, le même dragon, donc sur un autre plan, est affronté par Michel et ses anges, et il est vaincu. Et dans le ciel, c'est la victoire de Dieu et de son Messie. Le dragon est chassé du ciel et il ne pourra pas accuser les croyants devant Dieu. Alors cette victoire, c'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. Une bonne nouvelle parce que si nous croyons en Jésus, si nous lui demandons pardon de nos fautes, nous sommes assurés de son pardon et de la vie éternelle. Et c'est une bonne nouvelle parce que le dragon qui nous poursuit et nous menace encore, ce dragon a été vaincu et sa fin est proche. Et c'est aussi une mauvaise nouvelle parce que la défaite du dragon l'a rendu encore plus furieux et plus déchaîné. Malheur à vous, terre et mer, car le diable est descendu vers vous en grande fureur, sachant qu'il a peu de temps. Alors je crois que la bonne nouvelle l'emporte sur la mauvaise, sur cette mauvaise nouvelle de tous les ennuis, tous les malheurs, tous les drames que le diable peut causer, pourrait causer. Voire même, je crois qu'on peut dire que cet excès de méchanceté du diable, cette méchanceté exacerbée, est en fait pour nous un élément réconfortant. Lorsque nous le voyons si méchant, lorsque nous le sentons si méchant, eh bien nous pouvons nous dire qu'il ne serait pas si méchant, peut-être s'il ne se sentait pas, s'il ne se savait pas perdu. Et plus nous le voyons, plus nous le sentons méchant, et plus ça nous confirme qu'il va perdre. Comme ces bêtes qui, dans le dernier sursaut, veulent encore attaquer, alors que c'est leur dernier sursaut. Et je crois que c'est important de l'entendre, parce qu'il n'y a rien de pire quand on subit le mal, quand on subit l'injustice, que de penser, de se voir à penser que le mal va gagner. Que le mal ne sera jamais vaincu. Et on aura beau avoir investi tout ce qu'on a investi, ça ne sert à rien. Que jamais le mal ne sera puni. Et c'est pourquoi les psalmistes en appellent à la vengeance de Dieu. On peut le voir de manière violente. Vengeance, oui, c'est violent, mais en même temps, c'est bien l'espoir du bien, du rayonnement du bien qui est là. Et par contre, quand on sait que la victoire vient, eh bien nous pouvons plus facilement, en tout cas, endurer l'injustice. Nous pouvons même aimer ceux qui nous font du tort et prier pour eux. Parce que nous savons que Dieu a gagné la guerre et qu'il gagnera. Il est frappant alors de constater que la victoire céleste sur le dragon, qui est due à Michel et ses anges, donc on dirait que voilà, ils ont gagné en haut, quoi. Mais quand elle se trouve redite dans le texte, parce qu'elle est dite au niveau céleste, mais quand elle se trouve redite, il n'est plus question là de Michel et de ses anges. Nous lisons au verset 11, un pluriel. Ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole, leur témoignage, car ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Et ces « ils » ici, ce ne sont pas les anges. Ce sont les martyrs sur la terre. Ceux qui se sont attachés au Christ, ceux qui se sont attachés au sang de l'agneau, ceux qui ont témoigné de leur foi, la parole de leur témoignage, et ceux qui ont payé de leur vie leur fidélité au Christ. Eh bien, ceux-là aussi bien que Michel et ses anges dans le ciel, ceux-là aussi ont vaincu le dragon. Autrement dit, on peut fort bien vaincre le dragon, même en étant pourchassé par lui. Et on peut être un loser aux yeux du monde, un perdant, un mis à mort même par le dragon, mais dans la mort même, avoir vaincu le dragon. Donc même pourchassé, même mis à mort, être vainqueur. Je ne vous demande pas nécessairement de le croire, d'y adhérer, surtout si vous êtes extérieur à la foi, mais voilà la proposition, l'affirmation de l'Apocalypse. Reste alors pour chacun d'entre nous au moins une question. Où est-ce que je suis dans ce combat? Est-ce que je suis du côté des enfants de la femme qui gardent les témoignages, qui gardent les commandements de Dieu, le témoignage de Jésus, qui cherchent à les vivre? Où est-ce que je suis? Du côté du dragon? À cette question, dans le texte, s'associent des précisions, des conditions qui sont très simples, qui sont très, très clairement formulées. Le sang de l'agneau, c'est-à-dire le pardon que demande et que reçoit celui qui cherche Jésus-Christ, qui s'adresse à lui, qui veut croire en lui, qui croit en Jésus-Christ mort pour le pardon de ses fautes. Et puis le témoignage de la parole, se déclarer pour Jésus, et donner sa vie à Jésus pour Jésus. Donc, non, dit l'Apocalypse, le dragon ne gagnera pas si nous sommes du côté de Jésus. Cette victoire, elle est déjà proclamée dans le ciel, mais nous pouvons nous aussi déjà, dès maintenant, par la foi, dans l'espérance, la proclamer aussi sur la terre et la proclamer ici et maintenant. Et je vous invite à le faire par un chant. Il est Seigneur. Thank you.
arriver. Le moment de vérité a sonné, l'avènement de sa lumière. L'ombre est désarmée, l'ennemi est harassé, et le jour de la victoire est arrivé. Il est Seigneur, il est vainqueur. Par la force de son nom, il a scellé le pardon de sa vie, de sa paix et d'un testament d'éternité. Revêtu de joie, écoute de sa voix, dans sa puissance, unis par son sang, montés par votre chant, nous amènerons les foules à sa louange. Il est Seigneur, il est vainqueur. Par la force du Très-Haut, il est sorti du tombeau et il vit à jamais, de gloire et d'autorité. L'aube est déjà là, ce jour l'on verra le salut de Jésus-Christ briller sur terre. Rien n'est plus certain que l'étoile du matin dans le ciel illuminé de nos prières. Il est Seigneur, que le Dieu de l'univers soit manifesté sur terre, que son nom soit loué et que règne enfin sa majesté.
Voilà. Notre culte s'achève maintenant.